La philosophie. Une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Bien aujourd'hui, Françoise Gernot n'est pas avec moi pour présenter Osons la philosophie. Elle a gentiment donné la place à Chérif Toubal. Bonjour Chérif.
Bonjour.
Et Jean-Bernard Parturet. Bonjour Jean-Bernard.
Bonjour.
Alors pour faire un peu l'historique de cette entorse à Osons la philosophie, il y a un mois, je recevais Chérif Toubal pour son livre « Les étoiles ne mentent pas, parcours d'un Français musulman ». Vous aviez été très bon dans cette émission.
Merci. J'ai ouï dire qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs, donc voilà, ça fait plaisir. Quoi.
Le sous-titre « Parcours d'un Français musulman » est très interrogateur, très interrogatif, je ne sais pas comment dire. Et vous nous aviez parlé donc de ce parcours d'un Français, hein, vous insistez. Un Français, je suis d'abord Français. Avec cette rédaction après ces difficultés scolaires, en ce moment, vous êtes dans d'autres difficultés professionnelles.
Oui, c'est plus des difficultés professionnelles. Mais bon, j'ai quand même tenu à venir ici parce que d'abord, j'ai l'autorisation, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc, ce sont mes activités personnelles. Donc, j'ai tenu à honorer cette invitation. Merci, Sylviane.
Eh bien, je vous en prie. Merci. Puis bon courage pour la suite et pour tous ces démêlés.
Merci.
Donc, vous m'aviez parlé de cette thèse. Je ne vais pas redire le titre un peu grandiloquent. C'est toujours comme ça, les titres de thèse, non?
Pas toujours, il y en a de plus simple.
Alors, j'ai parlé de Chérif, mais je n'ai pas parlé de Jean-Bernard Paturet, qui est à la retraite, et oui. Hein. Mais vous êtes professeur honoraire de l'université Paul Valéry à Montpellier. Mmh. Et donc, vous vous êtes rencontrés tous les deux. Un peu par hasard, et puis surtout dans un DU, en fait, un diplôme universitaire, à votre initiative, Chérif, mais vous, alors, Jean-Bernard, ça vous intéressait beaucoup. Alors, qui parle du DU?
Du DU ou peut-être la rencontre,
la
peut-être
rencontre.
D'abord. Ouais. Donc, Jean-Bernard est intervenu dans un cours où j'étais moi étudiant à cette époque-là. Et en fait, il est venu normalement nous parler des entrées philosophiques. Je ne sais plus quelle était la thématique exactement. Mais le fait est qu'il a parlé un peu d'autre chose. Il a parlé de psychanalyse. Donc, ça m'a particulièrement interpellé et intéressé. Donc, on a pris contact. Et à partir de là, d'abord, c'était je dirais, une relation...
maître-élève.
Voilà, ouais, on peut dire ça, je pense, ouais, voilà, puisqu'on est dans le cadre de la philo. Et puis ensuite, c'est devenu autre chose. Et puis, j'ai fait ma thèse avec Jean-Bernard. Et c'est devenu ensuite, plus que ça, un ami, quoi.
Et donc, vous avez écrit ensemble, je ne vais même pas citer le titre du livre dont on va parler aujourd'hui, c'est « Marianne sur le divan », qui est le titre de cette émission. Il y en aura deux, hein, Marianne 1 et Marianne 2. « Marianne sur le divan, laïcité et psychanalyste ». Aux éditions L'Harmattan, dans une rubrique psychanalyse et lien social. Donc vous êtes tous les deux dans votre élément. Quel était le but en fait d'écrire ce livre?
Le but d'écrire ce livre a eu comme point d'origine les questions qui étaient posées par les étudiants et puis aussi une certaine forme de pédagogie, parce que ce qu'on a fait dans le cadre du DU, c'était quand même un cheminement, un parcours autour de la psychanalyse et de la laïcité qui était un peu libre, pas de contraintes avec des cours très précis à poser, etc. Et on s'est dit que ça pouvait quand même être intéressant pour les étudiants de formaliser d'une façon plus précise et éventuellement de mettre à leur disposition le cours lui-même qui a trouvé sa forme, peut-être pas définitive, mais qui a trouvé sa forme dans ce texte de Marianne sur le divan.
On peut dire qu'en fait, il y a une imbrication directe entre les cours et la production du texte tel qu'il existe là. Quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti des questions des élèves et pour essayer de développer et d'avoir effectivement peut-être une autre lecture de la question de la laïcité.
Mais au début, c'était presque un ouvrage de droit complétée par la psychanalyse ou mise en parallèle, comment on peut dire?
L'approche de la laïcité telle qu'on la voit, alors Chérif pourrait le dire mieux que moi, telle qu'on la voit dans les autres DU qui ont été constitués en France, repose essentiellement sur la question du droit. Une approche qui est tout à fait légitime et même fondamentale. Et nous nous sommes dit que la question du droit, c'était effectivement très important, parce que ça définit le cadre dans laquelle la laïcité prend sens en France, mais que ça ne suffisait pas forcément pour comprendre la problématique de la laïcité. Par exemple, les gens qui lisent le cadre juridique ne sont pas forcément touchés. Ils se disent, oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rencontrer une autre religion? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui se joue dans quelque chose d'une imposition, dans certaines circonstances, plus ou moins à droite politiquement, d'ailleurs. Et donc, il nous a semblé qu'il fallait dépasser cette question du droit, que la problématique de la laïcité ne pouvait pas s'arrêter au droit, qu'il y avait d'autres choses qui pouvaient venir l'éclairer. Alors, pas seulement la psychanalyse, naturellement, mais par exemple, l'histoire des religions, par exemple, la sociologie.
Ou même l'art, puisque nous
l'art, enfin oui, différentes...
L'anthropologie,
effectivement.
D'autres disciplines, d'autres approches que simplement la question du droit.
Peut-être pour le dire autrement, enfin, moi, je pense que ce n'est pas parce que la loi est énoncée qu'elle est forcément admise. C'est-à-dire que l'énoncé d'une loi ne suffit pas à ce qu'elle soit appliquée. C'est-à-dire que la loi va avoir des conséquences sur la vie quotidienne des personnes, mais je ne l'admets pas forcément, je ne la fais pas forcément mienne. Donc l'idée, c'était de venir dire un peu sur le plan aussi psychique, et voilà, qu'est-ce qui se passe dans le rapport à la loi, en fait.
Voilà. Mais... On tourne autour de cette notion qui est tout à fait parallèle, qui est la notion de, vous avez dit religion, mais je dirais plutôt croyance, en fait. On peut croire et ne pas être forcément religieux. Donc, comment vous mettez ça en lumière dans ce titre, laïcité et psychanalyse? Pourquoi pas croyance et psychanalyse?
Alors là, vous faites référence à peut-être une partie du livre, effectivement, la croyance. La croyance est un. Enfin, c'est le point de départ. Enfin, là, on s'appuie là-dessus dans le bouquin, puis dans les cours. Qu'est-ce qui fait que les gens croient? Et on va le dire autrement, sur le plan psychique, est-il possible de ne pas croire? Ce qu'on a essayé d'annoncer, c'est qu'effectivement, par exemple, un enfant ne peut pas ne pas croire. Hormis peut-être certaines structures psychiques tout à fait particulières, mais un enfant ne sait pas. Il n'est pas dans une question de savoir. Lorsque ses parents parlent, il ne peut que les croire, en fait. Donc il est amené à croire. Et c'est d'ailleurs, il me semble en avoir parlé d'ailleurs sur l'émission précédente, le Père Noël. C'est exactement ça. C'est-à-dire cette histoire du Père Noël. À partir du moment où le parent il existe un Père Noël, quelqu'un qui arrive du ciel et qui passe par toutes les cheminées en même temps.
Et qui donne des cadeaux.
Et qui donne des cadeaux. Et l'enfant croit ça, quoi. Donc l'idée c'était de dire voilà, on ne peut pas ne pas croire. En réalité, dans la vie quotidienne, on est amené effectivement à croire à tout et n'importe quoi.
Mais au Dieu de ses parents en général.
La présence d'un Dieu est aussi la conséquence d'une certaine culture, d'un certain environnement dans lequel effectivement j'ai pu grandir.
Oui, c'est pour ça que votre livre, je l'ai recité, « Les étoiles ne mentent pas », qui était une expression de votre maman, qu'on a mis dans une émission Itinérance, puisque le sous-titre est « Parcours d'un Français musulman », avec justement cette double identité, cette double croyance. Et vous, Jean-Bernard, vous êtes d'accord avec le fait qu'un enfant croit de toute façon et va croire au Dieu de ses parents ?
Alors qu'un enfant croit, oui, au Dieu de ses parents la plupart du temps. Après, une fois qu'il devient adolescent,
il peut y avoir des ruptures.
Et quand il devient adulte, les choses sans doute peuvent bouger.
Est-ce que ça le dénature? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, on parle souvent du libre arbitre, mais l'enfant, à quel âge a-t-il son libre arbitre? Et à quel moment la psychanalyse apparaît-elle? Moi, je pense au livre de Bettelheim qui a bercé un peu mon adolescence, la psychanalyse des contes de fées, en disant « Oh là là, il faut surtout pas croire aux contes de fées !» Donc, c'est pour ça qu'on a intitulé l'émission « Marianne sur le divan » plutôt que « Laïcité et psychanalyse », parce qu'il y a tout de même une certaine appréhension face au mot « psychanalyse ».
Oui, alors il paye surtout actuellement, au fond, la psychanalyse continue toujours à gêner d'une certaine façon, mais on préfère croire à des... Là encore, un phénomène de croyance à des approches dites scientifiques, que ce soit du côté des neurosciences, des sciences comportementales, etc., qui ont leur pertinence, c'est pas le problème. Hein. mais on est quand même du côté de la croyance. Alors, l'enfant croit, c'est sûr, mais peut-être qu'on reste enfant jusqu'à très tard dans la vie et que les phénomènes de croyance nous accompagnent tout au long de notre existence, sans doute. Voilà, donc la psychanalyse nous dit quelque chose sur la croyance. Elle nous dit que c'est en rapport avec la question du père, de l'enfant, dans son... pour le dire avec le mot de Freud en allemand, l'Hilflosigkeit, c'est-à-dire le fait que l'enfant est un peu en détresse quand il naît, il ne sait pas trop à quoi se rapprocher. Mmh. Et cette figure du père un peu grand, tout puissant, fort, etc., vient au fond le protéger, l'aider, le soutenir, l'aimer, etc. Et donc, du coup, quand l'enfant grandit, il va projeter ou déplacer cette figure du père sur quelque chose d'autre que certains appellent Dieu, qu'on peut appeler Dieu. Il y a un autre point peut-être sur la croyance, mais je ne sais pas si ça interrompt le fil réflexion. C'est que le rapport de la croyance avec la laïcité, c'est que lorsque nous croyons, nous avons plutôt tendance à croire que ce que nous pensons est de l'ordre de l'absolu. Et donc, du coup, quand on est du côté d'une croyance absolue, qu'elle soit religieuse ou idéologique, par exemple, ou politique.
Ou même sportive, je peux très bien.
Oui, tout à fait. Eh bien, quelle est la place que nous laissons aux autres? Et la laïcité est fondamentalement quelque chose qui vient nous appeler à laisser de la place pour les autres, pour l'autre, pour d'autres manières de voir
la tolérance.
Il y a une espèce de rêve d'absolu comme ça chez le sujet humain, je vais dire ça comme ça, de retrouver ce qui s'appelle le tout en fait, être de faire un avec le tout. Et ce qu'avance la psychanalyse, c'est que au contraire nous sommes traversés par un manque, je dirais, de structure. Hein. Enfin, en philosophie justement, on pourrait dire peut-être ontologique, c'est-à-dire qui fait partie de la structure même de l'humain. Et ce manque-là va faire que nous sommes toujours en recherche de cette forme de complétude, de cette forme d'absolu. Et je peux très bien, m'imaginer transformer effectivement ce que je vis au quotidien et le vivre dans une espèce d'imaginaire absolu, dans l'idée de refaire un tout avec l'ensemble. Et ça, c'est le rêve, en fait. C'est le rêve. Et ce que la psychanalyse vient dire, c'est que c'est impossible. C'est que nous sommes confrontés à quelque chose qui relève de l'impossible. Et là où c'est particulièrement visible, là où c'est particulièrement perceptible, c'est dans le langage. C'est-à-dire que le langage fait que je suis obligé de discriminer. J'ai devant moi un micro, si je dis un micro, je ne parle pas d'un livre. C'est-à-dire que je ne peux pas tout dire en même temps. Je ne peux pas, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de signifiant, pour le dire comme ça, qui serait à même de dire l'ensemble, qui serait à même de dire le tout. Peut-être Dieu, justement. C'est très intéressant de voir dans les différentes traditions, notamment hébraïques, par exemple, comment Dieu n'est pas nommé. On ne nomme pas le nom de Dieu. Chez les musulmans, par contre, Dieu est nommé en permanence. C'est-à-dire que Dieu est présent là, tout le temps. Donc il y a cette présence divine qui vous donne en fait le sentiment, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, on peut s'amuser avec Lacan sur le mot de sentiment, puisqu'il écrit en deux parties, lui, sentiment. Voilà, donc je suis pris dans une espèce de mensonge que je fabrique pour moi-même et qui me donne le sentiment, voilà. L'impression de faire un avec l'ensemble, en fait.
Et on l'a très bien vu dans votre livre, qui est votre biographie, avec toutes vos hésitations, ces périodes très religieuses, mais que le soir même, après une nuit dans une mosquée, vous alliez en boîte de nuit jusqu'au petit matin. Donc on voit bien cette ambivalence. Et là, je suis en train de regarder, pendant que je vous écoute, la table des matières, justement, de Marianne sur le divan. Et il y a le phénomène de la croyance, transfert et laïcité, langage, discours du maître et laïcité, désir et jouissance. Donc, on tourne vraiment autour de tous ces aspects. Loi symbolique et castration. Donc, vous avez employé le terme de frustration. On a l'impression que dans laïcité et psychanalyse, il y a beaucoup justement de frustration. Il y a beaucoup d'interrogations, non ?
Ce terme, avant de te laisser la parole peut-être, mais ce terme est fondamental parce qu'il y a trois niveaux, qui me semblent importants à bien entendre. On dit de manière assez traditionnelle en psychanalyse, ce qui relève de la privation. D'abord, ce qui relève de la privation. La privation, c'est assez simple. La privation, c'est le réel, c'est-à-dire il y a du chocolat, mais tu n'as pas droit. Voilà, c'est fermé, c'est dans le placard, tu ne peux pas. Voilà. La frustration, c'est pas tout à fait la même chose. La frustration, c'est il y a du chocolat, ok, d'accord, j'ai même accès, sauf que ça ne répond pas exactement à ce que j'avais imaginé. Par exemple, ou une maison, ou même un objet, il faut l'entendre en psychanalyse au sens large, c'est-à-dire, alors là, je vais commencer à complexifier un peu les choses, mais il est possible qu'un sujet soit perçu comme un objet. C'est-à-dire que le sujet qui est là, présent, peut ne pas être suffisamment satisfaisant. Donc ça, il y a quelque chose dans la frustration, il y a un rapport avec la satisfaction. C'est intéressant, là, d'ailleurs, de revenir sur l'étymologie du terme, puisque satis, il me semble que c'est en latin ou en grec, je ne sais plus.
En latin.
Signifie en fait la mesure, en fait. Juste assez, en fait.
Oui, la bonne dose.
Oui, c'est le assez. Voilà, ouais. C'est le assez, en fait. Donc il y a quelque chose de l'ordre lorsque nous sommes frustrés, c'est que nous n'avons pas eu assez de ce qui pouvait correspondre à l'imaginaire que je me faisais.
En fait, on a un imaginaire qui met la barre trop haute et on ne peut être que déçu.
Par exemple.
Je pense justement en religion.
Par exemple. Et la castration, le troisième niveau, qui est quand même important, qui est fondamental en fait dans ce qu'on essaye de dire, c'est que la castration, ce n'est pas de la privation ou de la frustration. La castration, c'est une coupure radicale. C'est-à-dire quelque chose qui ne reviendra pas. C'est enlevé, c'est fini. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. C'est ce que je disais tout à l'heure, je le mets en lien avec cette histoire du tout. Puisque je ne peux pas être le tout. En fait, je suis un sujet frustré. Frustré et castré en permanence. C'est-à-dire que je ne peux pas être ce tout-là. Et parce que je ne peux pas être ce tout-là, l'imaginaire peut très bien refabriquer quelque chose et me donner, ce qu'on disait tout à l'heure, un père en plus grand, c'est-à-dire un Dieu, qui viendrait effectivement combler mes manques.
Et donc, l'être humain est toujours en recherche et toujours en questionnement. Quand vous avez dirigé sa thèse, Jean-Bernard, vous avez été obligé de le cadrer beaucoup. Il a tellement de choses à dire.
Oui,
pardon. Quel a été votre rôle en tant que directeur de thèse?
Oh, un rôle classique, c'est-à-dire de beaucoup laisser faire. et puis de permettre ce que parfois les gens n'osent pas faire. Parce que parfois, l'université ou d'autres institutions ne donnent pas d'interdits ou de consignes. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui se disent « Est-ce que j'ai le droit de faire ça ?»
Oui, alors, vous m'aviez parlé du problème des récits. Dans une thèse, on ne peut pas mettre trop de récits.
On ne peut pas. Certains ont décidé qu'on ne pouvait pas. Mais on peut pas
d'où le la livre première qui, personne. Était en fait une, qui était en fait un, voilà, un complément. Parce que les deux ont été un peu rédigés en même temps. En fait. Ils
sont... Rédigés en même temps, mais pas sortis en même temps.
Ouais. Oui. Mais l'un complète l'autre.
Enfin, plutôt sortis en même temps,
mais pas
rédigés en même temps. Non, c'est l'inverse, en fait. Pardon.
Oui. Alors, Il y a un aspect, moi, que j'ai envie de vous poser la question, et bien sûr, tout le monde y pense, c'est l'aspect politique, parce que quand on parle de laïcité, on pense beaucoup à énormément de dérives, on va dire, islamiques. Mais avant, on va écouter un groupe palestinien. Vous avez choisi Chérif, hein, le trio Joubran.
Oui,
le
trio Joubran.
Ça, c'est parce que vous aimez cette musique.
C'est une très belle musique. Et puis, j'ai eu l'occasion de les voir plusieurs fois en concert.
C'est un bel exemple d'art, de tolérance,
d'ouverture. Et je dirais qu'à cette époque un peu particulière, là, je voulais aussi rendre hommage à cette musique-là aussi, quoi.
Thank you.
sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons nos deux invités dans Osons la philosophie, Jean-Bernard Paturet et Chérif Toubal, pour le livre Marianne sur le divan, laïcité et psychanalyse, aux éditions L'Harmattan, qui font suite à une émission avec Chérif Toubal, Les étoiles ne montent pas, dans Itinérance, parcours d'un Français musulman. Et je reviens à cette idée, vous avez dit, notre livre répond beaucoup aux questions des étudiants. Est-ce que l'aspect politique intervenait énormément dans leurs questions? Est-ce que c'est vraiment une problématique très, très forte?
Ça a été, oui, une problématique très forte, justement, peut-être par rapport à la question de la croyance et par rapport à la question de la laïcité en tant que elle vient poser un certain nombre de limites. Elle vient autoriser, mais poser aussi un certain nombre de limites, au sens où je ne peux pas envahir tout l'espace qui, qui est commun. Et on a pris souvent, enfin je l'avais fait un peu dans la conclusion, repris une image. Vous savez, quand on, dans le groupe en formation, on avait des tables en carré avec un espace vide au milieu. Et pour moi, ça avait été un peu une sorte de symbole de ce que pouvait être la laïcité. Il y a un espace commun au milieu, mais personne ne peut le posséder à lui tout seul. Que ce soit, comme vous l'évoquiez, une religion, l'islam ou une autre. On sait d'ailleurs, c'est ce à quoi on fait allusion aussi dans l'ouvrage, qu'au moment des lois de 1905, il y a eu quand même de grosses bagarres entre l'Église catholique et l'État. Peut-être aussi d'autres religions, mais principalement l'Église catholique.
Oui, la séparation de l'Église et l'État, quand même, de soi. Hein.
Voilà, oui. Et ben, on peut aussi comprendre qu'actuellement, l'islam, ça n'arrive pas non plus de soi, cette question de la laïcité. Hein, dans une
sont presque logique, mais il faut qu'on passe à autre chose.
C'est ça. Mais on peut comprendre quand même qu'à un moment donné, il y a eu des bagarres autour de ça et qu'elles ne sont pas toutes résolues. Il y a des gens qui attendent aussi ces problématiques ou la laïcité, on pourrait dire, au coin du bois, si je puis dire. Voilà. Donc il y a eu effectivement, au sens du politique, le politique comme ce qui permet aux personnes d'un groupe social de vivre ensemble. Et ça, c'est la question politique fondamentale, sans doute.
Parce que souvent, tant que le politique n'est pas intervenu, en fait, les gens vivent ensemble. Enfin, on entend souvent ça en Algérie dans les années 20, on entend souvent, même en Palestine avant la Deuxième Guerre mondiale, que les communautés vivaient très bien ensemble. C'est quand il y a une ingérence, en fait, politique, coloniale, que tout se désagrège.
Mais la religion peut être aussi quelque chose de colonial, guillemets. Hein, et donc, peut-être, il est important que, de temps en temps, l'État vienne poser des choses. C'est une conception de la laïcité que nous avons en France, qui n'est pas la même que celle des anglo-saxons, des Canadiens.
On entend souvent les anglo-saxons ne comprennent pas trop la culture française.
C'est eux qui tirent un peu sur cette idée que ça pourrait être comme une forme de religion, de religion à la française, d'une certaine façon. Ce qui fondamentalement n'est pas le cas.
Là où il faut faire un distinguo, là où je rejoins complètement Jean-Bernard, c'est qu'il faut faire le distinguo effectivement entre deux termes qui me semblent quand même fondamentaux. C'est d'un côté ce que c'est que la laïcité et de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler les processus de sécularisation. Ce n'est pas la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire que sécularisation, pour faire rapide, ça serait le fait de rendre profane. En fait, c'est une société qui s'éloigne de plus en plus de la dimension sacrée, quoi. En France, nous sommes un pays qui est de plus en plus sécularisé, c'est-à-dire où il y a de moins en moins de gens se déclarant croyants, et qui est à la base effectivement très très laïcisé. Donc nous avons les deux, en fait. La laïcité, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de mettre sous forme juridique ce qui existe déjà dans le processus de sécularisation. C'est-à-dire que c'est une façon de mettre, encore une fois, par le droit, la possibilité de s'écarter de la croyance et d'une pratique religieuse. Alors ce qui est important, peut-être on pourrait le résumer comme ça, la laïcité, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est pas si compliqué que ça, mais c'est difficile à admettre pour soi.
J'allais parler de l'apprentissage, comment convaincre
la laïcité, au fond, ce que disait Jean-Bernard sur cet espace laissé, là, en fait, c'est simplement un principe juridique qui vient dire, attention, personne d'entre vous ici n'a la vérité. L'enjeu, c'est ça quand même. L'enjeu, c'est, pour revenir à ce qu'on disait sur ce qu'on disait tout à l'heure sur cette dimension imaginaire qui a envie, voilà, de s'inscrire dans le tout. Le tout, ça serait aussi, j'ai la vérité, elle est à moi, elle m'appartient, quoi. Et la psychanalyse, puisque c'est quand même l'objet de notre travail ici, vient nous dire que Lacan, là-dessus, pour ne pas le citer, mais je vais le faire quand même un peu, il dit quelque chose qui est très juste. Il dit, la vérité est mi-dit. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité ne dit pas la totalité. Même la vérité ne peut pas vous dire ce qu'il en est du vrai. Du vrai, je dirais, comme cette table devant nous, quoi. Quelque chose nous échappe toujours, quoi. Donc il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vérité vraie. Il n'y a que des refabrications personnelles qui viennent dire ce que c'est que la vérité, quoi. Mais nous ne sommes... Vous voyez, donc le principe de laïcité, c'est la possibilité de créer un espace pour que chacun puisse venir dire, voilà, quelle est ma vérité.
Alors nous le reprendrons
Construction individuelle, tu dis chacun reconstruit, mais aussi collectivement.
Collectivement,
construit aussi des choses collectivement, beaucoup de choses collectivement.
Nous verrons ça dans la seconde mission avec cet aspect justement politique et puis dans un monde avec beaucoup d'extrémisme, beaucoup où chacun justement veut imposer sa vérité. Merci à vous et à vous deux et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
À vous.
Au revoir.